je joins Pierre Archambault, hein, qui a vu pour nous l'exposition collective d'ampleur 40 à la galerie Blouin Division jusqu'au 20 février 2021. Ça donne le temps pour aller la voir. Et l'exposition pour toute la famille dans les quatre vitrines de la Maison Théâtre transformée en cabinet de curiosité. Alors, c'est un événement qui s'intitule « Les vitrines fantastiques ». C'est jusqu'au 17 janvier 2021. C'est sur la rue Ontario, bien sûr, dans le quartier latin qui est situé la Maison Théâtre. Bienvenue, Pierre.
Oui, bonjour, Chantal.
Oui, bonjour.
Alors, samedi dernier, cette belle journée, oui. Je me suis dirigée vers Griffintown.
Oui.
C'est précisément à la galerie Blouin Division.
Oui.
Qui est une récente association de deux galeristes qui ont décidé de réunir les œuvres de 40 artistes qui sont liés aux meilleures galeries montréalaises, Artas Kiran, René Blouin, évidemment.
Oui.
Il y a aussi Armure et puis Simon Blais et Elephant.
Oui.
Donc, l'espace de division est, c'est le cas de dire, divisé en 9 salles.
Wow.
Alors, ce qui donne place, ce qui fait qu'elle est en deuxième place comme la plus spacieuse galerie à Montréal et sûrement au Québec et même possiblement au Canada. Après, évidemment, l'Arsenal qui, elle, est immense. Donc, aucun problème de distanciation et nous étions que 2 visiteurs dans cette centaine de mètres carrés de surface de plancher. Donc, les microbes sont très loin. Alors, je vous invite donc à faire un tour guidé pour aveugles, puisque
oui.
Les auditeurs ne voient pas les œuvres. Et d'après la description que je vais en faire, vous pourrez imaginer un peu les œuvres que j'ai vues à la galerie.
Oh.
En débutant avec, juste à côté de la porte, un écran d'un mètre
oui.
qui est divisé en petits carrés et ça contient chacun le visage d'hommes ou de femmes qui ont été captés par la caméra de l'artiste Raphaël Lozano-Remer,
oui.
dont on a pu voir une très intéressante exposition en solo au Musée d'art contemporain il y a quelques mois. Et par la suite, je me suis dirigée dans le large
oui.
corridor
oui.
où je vois ce qui ressemble à une toile de Riopel dans son style mosaïque, mais qui s'avère, en regardant de plus près, d'une photo de Pascal Grandmaison intitulée mm-hmm. « Détérioration ». Et ça montre des plantes en décomposition dont les couleurs sont encore très vives. Donc, ça fait vraiment un effet mosaïque qui ressemble au tableau des années 70 de Riopel. Et un peu plus loin, il y a Robert Racine qui est décédé l'an dernier, si ma mémoire est bonne. Alors, ce sont des photos noir et blanc. Il s'est intéressé à la fin de sa vie au voyage sur la Lune. Donc, c'est des photos de Apollo 2, du module lunaire aussi. Alors, c'est un peu étonnant de sa part, mais en fait, c'est les dernières œuvres qu'il a laissées. Un peu plus loin, il y a Mathieu Godet avec une sculpture qui c'est un d'ailleurs des artistes minimalistes québécois.
Oui.
Donc, il s'agit de 3 poutres qui se rencontrent au tiers et dont la longueur, donc les 2 tiers qui reposent au sol, sont peints en noir. Donc, à chacun d'interpréter ce qu'il en est. Et un peu plus loin, il y a une sculpture de Michel de Broin que j'aime beaucoup. Alors, il y a quelque chose de classique dans cette œuvre-là qui peut être associé à Brancusi.
Oui.
Ça ressemble vaguement à 2 oiseaux qui se bécotent, dont l'espace vide entre les 2 qui sont à la verticale ont l'aspect d'une bouteille. Donc, il y a toujours un double sens dans son travail.
Oui.
Parfois avec humour, parfois une vision plus poétique des objets. Très intéressant. Il y a Marcia Towson, dont j'ai parlé la semaine dernière, qui a 2 œuvres. Une qui est une espèce de bol en bois peint en noir, dont l'intérieur est arrondi. Et au centre, une boule blanche. Tout ça est en bois peint. On peut penser à une perle dans une huître. Et l'autre œuvre est un tondeau qui est au mur. C'est un cercle dont la moitié est en bois et l'autre moitié en aluminium. Et en se déplaçant dans la salle numéro 2, oui, on arrive devant l'œuvre de Myriam Dion. Quel travail minutieux de papier journal découpé à l'exacto. Ce sont des motifs géométriques en enfilade, ainsi que des bandelettes de feuilles d'or. Le tout est encollé sur du papier japonais. Ça dépasse vraiment l'aspect artisanal, puisqu'il y a tout un contenu idéologique qui utilise, en utilisant les journaux.
Les journaux.
Qui sont en fait des porteurs d'informations et dont le support aussi se dégrade assez rapidement.
Oui.
Autant aussi qu'on peut voir l'abondance de messages qu'on nous offre à tous les jours et qui vont s'enfouir dans nos mémoires. C'est une œuvre, je dirais, où la beauté et le concept ne font qu'un.
Oui, et d'autant plus pertinent que l'entreprise des journaux aussi est en déclin, hein? C'est ça, les médias, la presse étant en déclin, c'est d'autant plus pertinent.
Populaire, oui. Les gens utilisent plus l'Internet pour s'informer.
Voilà.
Donc, Carla Imlock, que je ne connais pas, qui est une artiste autochtone, et il y a aussi Caroline Monet,
oui,
elle est beaucoup plus connue, qui est d'origine autochtone et qui utilise beaucoup des matériaux et des techniques très actuelles, entre autres la vidéo, les effets de lumière belle, ainsi de suite. Et c'est toujours pour nous faire réfléchir sur la culture des Premières Nations.
Mmh.
Elle a 6 œuvres de petit format, d'environ 8 pouces et demi par 8 pouces et demi, ou si on préfère, 21 cm par 21 cm. Et ce sont des broderies de fil blanc sur un support de membrane d'étanchéité et qui provient de compagnies industrielles qui souvent s'accaparent des territoires qui appartiennent ou qui appartenaient aux Autochtones. Et ces compagnies-là aussi détruisent la nature à des profits économiques sans retour aux populations. Donc, c'est le message qu'elle fait passer au travers des hommes, mais dont l'esthétique est toujours très soignée.
Tout à fait.
Et
Caroline Monet, excuse Pierre, Blais, Caroline Monet qui vient, ça vaut la peine de mentionner, Pierre, que Caroline Monet, qui vient de gagner le prix Pierre,
oui,
Ayotte. Hein.
Oui,
alors, c'est mentionné,
oui,
c'est d'importance.
Marie-Claire, oui, Blais, qui n'est pas l'écrivaine, hein, c'est vraiment une autre personne. Alors, c'est un tissu bleu qui est plié en accordéon. Je ne suis pas très fervent de son travail. Il y a aussi Chi-Chien Wang dans, mm-hmm, la troisième salle qui, lui, utilise la photographie comme moyen d'expression. Alors, il s'agit d'impressions jet d'encre et ça s'intitule Cabbage, simplement. Alors, il a coupé un chou en deux et on voit la partie coupée dont le cœur a fleuri, donc ça donne une magnifique fleur jaune. C'est d'une beauté esthétique plutôt froide, donc,
oui,
comme la plupart des photographies qu'il présente dans les expositions. C'est très soigné, mais un peu froid.
Alors, le Pierre lauréat, Louis, cette année du prix Louis Comtois, Chi-Chien Wang.
Oui, effectivement.
Voilà.
Et tout près de là, il y a Gilles Mialcine.
Oui.
Qui s'intitule Buste. Alors, c'est une sculpture sur bois de tilleul,
mm-hmm,
qui est en fait un amalgame d'objets. Il y a un revolver, un abreuvoir et une chute d'eau qui, on peut dire, sont des indices d'un récit de mœurs sociales. Le tout est peint en blanc comme pour en faire une purification. On pourrait vraiment créer un roman policier à partir de l'œuvre. C'est souvent son dada, d'ailleurs. Il aime bien qu'on crée des histoires autour des éléments qu'il sculpte.
Oui.
Et en face de cette sculpture, il y a une toile peinte à l'huile et acrylique de Anthony Burnham.
Oui.
Alors, c'est assez étrange comme tableau, puisque ça représente une sculpture en trois dimensions qui est finement découpée, une sculpture en rose qui se détache sur un fond de tissu dont les plis sont restés et qui forme comme une grille. Alors, c'est un tableau hyper réaliste, assez étonnant et de grand format. Et sur le mur adjacent, il y a BGL. Alors, ben toujours, oui. Ils connaissent là, ce trio très inventif. Cette fois-ci, c'est un ghetto blaster fait en bâton de popsicle. Leur intérêt pour la culture vernaculaire et identitaire qui se lie souvent aux influences extérieures. Et sous le couvercle de l'humour, c'est une réflexion sociale qui s'impose dans tous les cas.
Oui, une critique sociale même.
Oui, c'est vrai. Mais toujours faite avec humour.
Oui.
Et il y a étonnamment une artiste suédoise, Marlon Kroll, qui a vécu au début du 20e siècle et dont on reconnaît ces dernières années un intérêt stylistique. Alors, il s'agit de quatre petits tableaux qui sont dessinés au crayon de couleur sur un drap qui a été monté sur une planche de bois. C'est dans un esprit un peu surréaliste et formaliste. C'est ça appartient à un sculpteur québécois. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ces œuvres-là dans l'exposition, puisque elle n'est pas québécoise ni canadienne, en fait. Mmh. Et il y a Pierre Dorion. Alors, c'est
un pilier des arts visuels.
Sur la gauche,
oui.
C'est six petits tableaux en ton dégradé vert viridien. Et le tableau à côté montre un escalier de sous-sol, très dépouillé, aucun décor. J'ai remarqué que ces dernières années, c'est surtout la lumière que Dorion essaie de capter dans ce qu'elle procure comme émotion. Donc, le côté architectural est mis au profit davantage sur la lumière que sur la structure. Et toujours dans la même salle, qui est la quatrième salle, il y a Numa Anum, qui est pratiquement inconnu à Montréal, mais qui a un très grand tableau hyper réaliste qui montre des motifs linéaires sur une image de chaudron. C'est apparemment autobiographique puisqu'il a dû travailler dans une cuisine de restaurant pour payer son loyer. Donc, il a peint son environnement de travail. Et le motif qui surplombe en transparence les étagères de vaisselle, c'est celui que l'on retrouve sur des billets de banque. Donc, on voit là la nécessité d'un gagne-pain pour l'artiste. Et Stéphane Larue, dans la cinquième salle, autre artiste minimaliste de la galerie Bellemare-Lambert.
Ouais.
Alors, c'est ce qu'on connaît de lui, c'est-à-dire une surface de bois carré sur lequel il a accentué les nervures du bois avec une teinture aquamarine, ce qui donne, en transparence, ce qui donne un effet de profondeur, de perspective sur le carré qui est totalement plat. Et à côté, un autre carré blanc sur une surface de bois blond. Alors, c'est un travail minutieux et très minimaliste.
Oui.
Et dans le fond de la salle, il y a Nadia Mir, qui a eu une impression numérique. Ça me fait penser beaucoup à un espèce de filet de pêche qui serait en suspension dans l'eau. Alors, probablement, c'est en ton de gris-bleu. Probablement un discours sur les pêches qui ont des droits, c'est-à-dire les autochtones qui ont des droits de pêche dans certaines régions du Québec. Et Jean-François Lauda, habituellement j'aime beaucoup son travail, mais là c'est vraiment pas très invitant. Il s'agit de larges traits bruns sur un fond jaune acide. J'ai l'impression que l'artiste s'est perdu dans le format, très grand format. C'est vraiment pas très invitant comme tableau. Par contre, il y a François Lacaze avec un tableau qui ressemble, enfin des formes qui ressemblent à des phosphènes dans la nuit ou des méduses blanches sur un fond sombre. C'est à la fois très poétique et très séduisant comme tableau. Vraiment, je l'achèterais volontiers.
Bon.
Deux artistes aussi, Tammy Campbell et Jessica Eaton, qui font des emprunts d'œuvres d'artistes connus comme Frank Stella, dans le cas de Tammy Campbell. Donc, elle reproduit en fait un tableau de Frank Stella, un tableau circulaire. Et Jessica Eaton reproduit un tableau de Joseph Albers, mais en contredisant les aplats que Albers avait inventé à son époque, dans les années 30, alors qu'elle en crée des perspectives. Mais je vois pas vraiment l'intérêt de se servir de style d'artiste du passé pour se les approprier actuellement. Il y a aussi un Claude Tousignan, qui est un des artistes plasticiens du Québec, explore toujours la relation des couleurs en aplat dans leur énergie interne, et cette fois-ci, ce sont des triangles inversés et triangles sur la base qui sont présentés dans un tableau horizontal. Et à côté, c'est une œuvre de Francine Savard, qui elle aussi utilise beaucoup la géométrie. Ce sont quatre formes ovales et un carré. Généralement, son travail, c'est des transpositions en couleurs de mots, de textes, de poèmes ou de textes d'écrivains célèbres qu'elle fait. Et par la suite, il y a Mathieu Beauséjour.
Oui.
Alors, ça ressemble à un tissage en noir et blanc, probablement tiré de documents qui touchent à l'économie, parce que c'est son dada dans les dernières années. Et dans la dernière salle, il y a une magnifique sculpture de Patrick Coutu, dans un style classique. C'est une espèce de coulée de larves en forme de berceau. C'est à la fois très élégant et séduisant. Et sur le mur, il y a Yann Pocro.
Oui.
Une épreuve numérique qui s'intitule Les calculs. Alors, il s'agit d'un écran blanc qui est entouré d'une bordure noire. Et au bas, il y a des espèces de reflets lumineux couleur terre de sienne. Très beau esthétiquement. Et à côté, vraiment un des plus grands artistes canadiens, Nicolas Bayère.
Oui.
Avec une gravure ultra complexe de dessins, de radars et de structures de circuits de communication. C'est gravé sur aluminium miroir, donc ça nous réfléchit quand on est devant l'œuvre. Une œuvre absolument magnifique et très, très complexe et très profond au niveau de l'analyse formelle et conceptuelle. Et il y a Geneviève Cadieux aussi, qui est une très grande photo d'une huître sur fond noir. Donc, on voit la perle en plein cœur de cette huître, qui est un peu de format carré, c'est étonnant. C'est un très grand format de 80 par 108 pouces de large, c'est à l'horizontale. Et une œuvre de Valérie Blass, qui s'appelle Parenthèse enchantée. Alors, au mur, on voit une photo noir et blanc d'une femme dont le corps est couvert d'un dessin linéaire. Et devant, sur un socle, c'est la tête, une tête de femme, qui est en fait une reproduction d'une sculpture célèbre de Brancusi, qui regarde la photo. Donc, on voit l'arrière de la tête, qui est peinte, elle aussi, en noir et blanc, les mêmes motifs qu'on retrouve sur le corps du modèle accroupi dans l'image au mur. Donc, toujours fascinant comme travail chez Valérie Blass, qui fait des clins d'œil à l'histoire de l'art, à l'histoire aussi de
l'anthropomorphisme aussi.
C'est toujours intéressant. J'ai jamais été déçu par son travail.
Oui.
Il y a aussi une peinture de Luce Meunier. C'est un tissu de lin qui a été plié. Elle a gardé les plis, donc les reliefs, et c'est peint par des verticales et des horizontales noires. Et dans une salle à part, il y a trois œuvres figuratives. une de Scawanati, oui, qui est une des artistes de la galerie Elephant, qui fait beaucoup de la vidéo et qui crée des avatars futuristes, de surtout de femmes. On voit là une jeune femme avec un téléphone intelligent qui est entourée de ballons. Et il y a aussi un tableau de Janet Warner qui est un portrait de jeune femme déformée par le traitement exagéré de la chevelure qui est trop abondante. Et sur l'autre mur, il y a Sabrina Raté, une autre artiste, oui, de la galerie Elephant.
Excellent.
Qui fait des mises en scène d'objets. Cette fois-ci, ce sont des tuyaux et des tissus de chaque côté d'une fenêtre très lumineuse. Une très belle mise en scène qui fait un peu théâtrale. Alors, il s'agit d'une impression à l'encre pigmentée et laminée à partir d'une projection.
Alors, Pierre, c'est beaucoup d'artistes vedettes donc réunis à la galerie Blouin Division, hein?
Oui,
et le titre 40, ça réfère, je pense, on peut penser à quarantaine peut-être. C'est une exposition créée un peu en période de début de confinement, hein, au printemps dernier?
Possiblement, oui.
C'est ce que j'ai lu quelques notes là, en disant qu'ils ont pensé à cette exposition-là pour un peu soutenir la communauté en début de confinement au printemps dernier. Alors, de là, le titre 40, qui réfère à quarantaine.
C'est aussi un choix de 40 artistes de diverses galeries. Donc,
oui.
La galerie Division Blouin va réouvrir le 12 janvier.
Oui.
C'est situé au 2020 rue William dans Griffintown et c'est tout près du... En fait, tout près. C'est à quelques 20 minutes de marche du métro Georges Vanier.
Une exposition qui vaut le déplacement, je crois que tu recommandes fortement, Pierre.
Ah, tout à fait. Il y,
oui,
en a pour tous les goûts et abondamment.
Alors, Pierre, tu voulais peut-être glisser mot sur une dernière petite exposition à voir en toute sécurité à l'extérieur pour toute la famille?
Oui, tout à fait. C'est,
oui,
à la Maison Théâtre. Ce sont,
oui,
des cabinets de curiosité. Il y a 4 vitrines. Dans la première, qui est tout près de la rue Sanguinet, il y a une centaine de toutous, de peluches, des ours, des canards, des singes, souvent qui tirent la langue, une langue rouge. Certains sont en lévitation au-dessus d'un drapé. Et parfois, il y a de la fumée qui va couvrir toute cette population agglutinée au sol. Dans la deuxième vitrine, c'est un grand personnage bizarre sur un trône qui lui aussi a une longue langue rouge qui pend et il porte d'immenses lunettes vertes. Derrière lui, il y a des tubes fluorescents qui s'illuminent en tons variés et il est entièrement entouré de têtes de diverses grosseurs et de diverses nationalités. Et tout au bord de la vitrine, il y a des offrandes de fruits, un peu comme on voit dans les restaurants chinois, là, des offrandes à Bouddha. Et près du plafond aussi, il y a des personnages volants sous des parapluies. Dans la troisième vitrine,
oui,
sur un fond de papier métallique qui est couvert de toutes petites poupées très pâles, il faut regarder attentivement. Et au fond, il y a un miroir ovale et le sol est entièrement enneigé, parsemé de bottes d'enfants qui sont remplies de papier argenté sur lesquels il y a des petites lumières qui circulent un peu comme des insectes en mouvement. Et le tout est surmonté d'un dinosaure blanc. Alors, et dans la quatrième vitrine, ce sont d'une part les casiers qui sont remplis d'objets et de neige. Il y a aussi une table où il y a un buffet, un fauteuil avec des oursons et un qui sort de la forêt, un ourson volant qui sort de la forêt. Et il y a deux anciens traîneaux tout près de la vitrine et avec des petits chevaux blancs, des coffrets et des bouteilles. Il y a de la neige partout. C'est un style un peu du Moyen-Orient. Alors, les points négatifs, c'est d'une part l'éclairage qui est beaucoup trop discret. C'est presque dans la pénombre. Et la surcharge d'objets,
oui,
comme si on avait fréquenté tous les ventes de garage et les bazars pour les placer dans les vitrines. Et aussi le manque d'organisation spatiale fait que l'intérêt s'érode. on aurait dû vraiment faire appel à un artiste visuel comme Antoine, je pensais à Jérôme Fortin, qui aurait fait une sélection thématique et une mise en scène qui aurait vraiment satisfait notre regard. Ce qu'il avait fait d'ailleurs au musée Stuart est absolument extraordinaire avec des objets de la collection du musée.
Mais c'est tout de même des vitrines qui peuvent contenter certains enfants.
Oui, effectivement. Et puis, c'est gratuit, donc en plein air aussi.
Et qui rendra un chocolat chaud, je pense, à côté.
Montréal, rue Ontario, entre la rue Sanguinet et Hôtel de Ville. Et c'est ça. C'est surtout pour les petits. J'y suis allé hier soir. Là, j'étais absolument frigorifié. Il y avait un vent glacial.
Tu n'as pas eu droit, Pierre, à un petit chocolat chaud à faire aux enfants qui vont voir la vitrine à côté chez Juliette. Oui, un petit chocolat chaud offert gratuitement aux enfants, mais pas aux adultes. Mais merci. Bon. Voilà. Merci beaucoup, Pierre, de ces recommandations.
Je vais aller me réchauffer finalement au complexe des jardins, où là aussi, le très beau décor, et on peut se réchauffer aussi, parce que souvent, c'est pas très chaud à l'extérieur. Moi, hier soir, là, c'était humide et venteux. Et j'ai revu un peu les installations extérieures. Je voulais souligner que sur le terrain de la place des Arts, là, en surplomb de la
rapidement, Pierre, on n'a plus de temps.
Les marches et voir d'immenses champs de tiges blanches qui ondulent au vent, fait un rapport avec les champs de blé. C'est magnifique. Les gens prenaient beaucoup de photos de cette immense installation.
Alors là, tu recommandes, Pierre, une promenade aux alentours de la Maison Théâtre de Plus?
Oui, autour de la place des spectacles et la place des arts.
Merci beaucoup, Pierre. C'est tout le temps dont on dispose. Et puis, merci d'avoir vu ces expositions-là d'intérêt. En tout cas, deux expositions. Une exposition très consistante à voir et d'intérêt à la galerie Blue Indivision. Et une exposition extérieure à voir. Il y a des petits bémols, mais je pense qu'avec tout l'ensemble, tout ce qui est à voir tout autour de la Maison Théâtre, ça vaut de se déplacer tout de même à la Maison Théâtre pour un spectacle pour toute la famille. Merci beaucoup.